Le mois de juin, c'est le mois de la fierté, l'occasion de célébrer la communauté de SLGBTQ+. Pour souligner le mois, j'ai discuté avec Jezebel Bardot, drag queen, franco-ontarienne. Nous sommes dans le mois de la fierté et malheureusement, même aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes et d'organisations qui s'opposent au genre dans toutes ses facettes. Que dirais-tu à ces personnes?
C'est d'abord savoir quoi est-ce qui s'oppose? Parce que moi, personnellement, quand je vois tout ce qui se passe, les manifestations au drag brunch puis au story time et tout ça, moi, je pense que les gens, ils savent même pas pourquoi ils sont fâchés. Je pense que la drag queen puis la communauté LGBTQ est pris dans le milieu d'un débat pas par accident, mais un peu. Moi, je pense que les gens s'opposent plus. On est plus dans un problème de mœurs puis au niveau du parenting. C'est vraiment ça, c'est des décisions de comment qu'on va élever nos enfants. C'est ça la question. Parce que c'est ça qui se pose. Ils aiment pas le fait que les gens de la communauté LGBTQ sont dans nos systèmes scolaires puis qui éduquent les enfants, puis que le gouvernement dit absolument que ces gens-là ont le droit d'exister dans nos systèmes scolaires, etc. Moi, je pense que c'est plus ça le débat, parce que c'est en tant que éducateur, puis en tant que drag queen, j'entends souvent les deux côtés, puis j'entends ce que les parents nous disent aussi à l'école, même si je ne vais pas à l'école en drague, beaucoup de parents ont des questions par rapport à, tu sais, quand le curriculum, par exemple, de santé est sorti en Ontario. Beaucoup de gens s'en ont opposés, mais ne s'opposaient pas nécessairement au contenu, mais avaient des inquiétudes à est-ce que le prof va être en mesure de livrer les messages de manière neutre, de manière factuelle, ou bien si ça va te laisser emporter dans des histoires personnelles ou qui vont aller trop loin. Parce que ça, il y a des parents qui disent, moi, je vais m'occuper de tel contenu, puis j'aimerais ça que l'école s'occupe de l'autre contenu. Fait que c'est souvent par manque de confiance que les parents ont dans les systèmes scolaires ou les politiciens à dire, où est la ligne? Où est la ligne de qu'est-ce qui va être partagé avec les enfants? Puis, d'un côté, je peux comprendre ça. De l'autre côté, c'est qu'il y en a aussi que, c'est sûr, ils se laissent emporter par toute cette effervescence-là, puis que c'est vraiment la haine, puis du préjugé, puis de l'homophobie, de la transphobie qui ressort, puis ils en profitent pour ventiler tout ça. Mais vraiment, à la base du débat, c'est un problème, pas un problème, mais c'est une discussion au niveau des mœurs, puis au niveau du style parental, qui est à la base de tout ce mouvement-là, selon moi.
Jezebel Bardot était inspirée par Brigitte Bardot, encore Dolly Parton. Comment est-ce que ces femmes t'ont inspirée?
La manière qui m'ont inspirée, bien, c'est sûr que c'est des grandes dames de la musique ou du cinéma qui ont eu un impact sur plusieurs gens. Et c'est sûr que quand on crée un nom de drague ou un personnage de drague, bien, je voulais définitivement, en tant que francophone à Toronto, avoir un clin d'œil à la culture française francophone, même si je suis québécois, je tenais absolument à ce qu'il y ait une représentation francophone dans mon nom. Donc, ma drag mom m'a donné Jezebel, et puis j'ai cru bon d'ajouter Bardot. Écoute, Brigitte Bardot, c'était la féministe, la sex symbol, hein, si tu veux, des années 60-70, et puis son impact a été quand même assez grand dans le mouvement des femmes, puis j'ai cru bon ajouter son nom au mien. Et puis, j'aime beaucoup son look, son esthétique à l'époque.
Jezebel Bardot existe depuis combien de temps?
Ça va faire, je crois, environ 9 ans au mois d'octobre. Donc, ils disent que les drag queens sont nées soit pendant le mois de la fierté ou à l'Halloween. Donc.
Eh bien, comment est-ce que tu es née? Comment est-ce que Jezebel Bardot est née? Qu'est-ce qui t'a inspirée dans ce monde?
En fait, quand je suis déménagée à Toronto, d'abord et avant tout, j'ai toujours adoré l'impro, le théâtre. J'ai toujours fait de l'impro secondaire quand j'étais pas mal plus jeune. J'étais gymnaste aussi. J'avais des rêves d'aller au Cirque du Soleil. Puis une fois que ce rêve-là, c'est un petit peu terminé après une blessure assez grave en gymnastique, j'ai choisi de changer de parcours. Je suis devenue prof d'éducation physique. Je travaillais en éducation. Puis je suis déménagée éventuellement à Toronto, où ce que, bien sûr, la scène de drag est très forte. C'est là où ce que j'ai commencé à regarder les spectacles. Et puis, je me suis aussi joint à une ligue de volleyball, une ligue LGBT de volleyball qui est très forte et très nombreuse ici à Toronto. Puis bien sûr, quand on a des tournois, puis des banquets, puis tout ça, il y a des performances de drag. Puis des fois, c'est des drags professionnels. Des fois, c'est des drags de gens de la ligue qui font juste mettre une perruque pour faire rire les gens, ils font un numéro, puis c'est drôle dans nos soirées. Quand on a des tournois, c'est sûr, à Toronto, c'est des gens de Montréal, c'est des gens de New York, de Boston, de Buffalo, qui viennent de pas loin, d'Ottawa. Et puis, ça fait une ambiance vraiment sécuritaire, le fun. C'est tous des gens qui se connaissent, on joue au tournoi, puis ensuite, il y a des spectacles le soir, c'est super le fun. Puis c'est un ami qui a dit, tu devrais te lancer. Puis c'est là où ce que j'ai dit, OK, j'aimerais ça faire un show à un moment donné pendant un de ces banquets-là. Et puis, je me suis lancé, puis j'ai choisi de faire plus un espèce de roast, comme un bien cuit. J'ai embauché une drag queen pour me déguiser comme Joan Rivers, la comédienne américaine qui est maintenant décédée. Mais c'était plus une insult comic, si tu veux. Et puis, j'ai décidé de faire un numéro, puis d'aller vraiment piquer puis rire de certaines personnes clés dans la ligue, bien sûr avec leur consentement. Puis à l'époque, la ligue avait comme beaucoup de défis politiques, puis les gens s'engueulaient sur plein de différentes niaiseries. Tu sais, des fois quand ça se met à déraper sur Facebook, ça se met à s'engueuler. Puis j'ai décidé de tout déconstruire ça dans mon petit show de comédie de drag. Puis ça l'a tellement fait rire les gens. J'ai fait pour la première fois en drag un numéro d'à peu près 20 minutes de stand-up, mais je suis allé lapider plus ou moins tout le monde. Et puis, ça l'a fait en sorte que c'est à ce moment-là, dans cette première performance-là, pour le fun, pour m'amuser, pour divertir les gens, que j'ai découvert le pouvoir du drag. C'était de faire rire les gens. Puis, il y avait comme un petit peu une thérapie qui s'est faite avec ça en même temps, si tu veux, parce que les gens se disaient, c'est vrai, c'est donc ben niaiseux, on s'engueule pour rien, pour des affaires comme ça. Puis, ça l'a vraiment comme apaisé l'atmosphère. Puis, c'est là où ce qu'il y a des vidéos, bien sûr, avec les réseaux sociaux, hein, ça se promène partout. Puis j'ai reçu un appel quelques semaines plus tard du gérant de Woody's qui ont dit « Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Joan Rivers, tu viendrais-tu faire Joan Rivers à Woody's? » J'ai dit « Écoute, moi j'ai juste fait ça pour le fun de même, pour divertir les gens. » Puis finalement, ben, je me suis relancé, j'ai fait un petit show à Woody's, puis je suis comme là depuis à peu près 8 ans. Là.
C'est excellent. C'est même que ça s'est fait. C'est un beau parcours. Qui est, parce que là, on a du coup connu Jezebel, mais qui est Jason au quotidien quand tu n'es pas Jezebel?
Moi, tant que Jason, je suis un peu un introverti. Je suis quelqu'un qui est quand même très, très calme de nature. Je suis quelqu'un qui aime mes petites affaires, j'aime mon espace, j'aime être tout seul. Ou avec une ou deux personnes, pas plus. C'est ça. Jezebel me permet de découvrir ce petit côté extroverti-là, puis me permet de m'amuser un peu. Je suis quelqu'un d'assez sérieux dans ma vie quotidienne. Mais en fait, à l'extérieur de ça, ben, comme j'ai dit, j'ai un parcours en éducation. J'ai étudié en psychologie sportive à l'Université Laurentienne à Sudbury. Ensuite, c'est ça, je suis devenue prof d'éducation physique, ensuite directeur adjoint, puis aujourd'hui, ben, je travaille comme conseiller pédagogique en école bienveillante et sécuritaire. Donc, oui, je suis retournée un petit peu en administration, mais je fais des allers-retours, puis je m'amuse bien gros au conseil, dans un conseil catholique francophone en Ontario, vous imaginez lequel. Et puis, c'est ça, donc j'ai ma petite vie ici à Toronto. Puis je travaille en français, puis pour moi, c'est très important de continuer en français. J'ai eu des opportunités d'aller dans les systèmes anglophones, puis je refuse, je veux absolument rester en Ontario, francophone, qui a toujours été ma maison, si vous voulez, même en tant que Québécois hors Québec, là, mais je suis très fière de travailler pour un système francophone.
Est-ce que Jezebel et Jason se mélangent au quotidien, et où est-ce que tu gardes tes deux personnalités, ou est-ce que tu gardes ces deux personnes complètement séparées?
J'aime séparer énormément. Et puis la raison pour ça, c'est que j'ai une petite leçon quand j'étais sur l'équipe nationale de gymnastique où ce que depuis l'âge où j'étais très jeune, j'ai beaucoup confondu mon identité avec ce que je faisais. C'est quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique. Après ça, je suis devenue sur l'équipe nationale. J'ai étudié en psychologie sportive. Je coachais pour payer mes études. Puis ma vie était le sport. Puis c'était dur pour les gens quasiment de dire, ben, ah, Jason, tu es gymnaste. Ah, Jason. Puis ce qui est arrivé, c'est que mon identité et mon sport sont devenus une chose quasiment dans ma vie. Puis quand je me suis blessée, puis là, je commençais à perdre des tournois où j'avais de la misère à suivre à cause de ma blessure. C'est là où ce que moi, comme personne, c'était plus Jason l'athlète qui était plus bon, c'était moi comme personne qui était ruinée. Puis c'est là que j'ai découvert quand même assez jeune que, hey, il faut être multidisciplinaire, puis il faut pas que ton identité nécessairement soit ta personne nécessairement, que ton sport devienne ton identité. Puis quand j'ai commencé à faire du drag, j'ai dit, écoute, c'est facile parce que t'incarnes un nouveau personnage, mais c'est facile de devenir cette personne-là quasiment tout le temps. Fait que moi, je sépare beaucoup Jason puis Jezebel, puis ça m'aide beaucoup parce que, tu sais, maintenant, tu fais un spectacle, puis tu te plantes, ou tu fais un mauvais pas, ou tu sais... pas bien été. Mais au moins, je peux me revirer de bord et dire, écoute, j'ai tout mon nom de vie en tant qu'éducateur, je joue au volleyball, j'ai un conjoint, je peux travailler dans ma maison. Il y a d'autres choses que je peux faire, puis je ne suis pas pris à être Jezebel tout le temps, puis je ne suis pas toujours associé en tant que Jezebel. J'ai une autre vie à l'extérieur de ça. Puis c'est un petit peu comme la question que je trouve, parce que les drag queens old school étaient vraiment comme ça. Ils étaient vraiment séparés. C'était le drag, c'était un véhicule, c'était un outlet, si tu veux, pour se diversifier, puis diversifier les autres gens. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, puis c'est pas rien de négatif, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention, selon moi. Beaucoup des jeunes drag queens, ils confondent énormément leur propre identité. Souvent, surtout s'ils sont non-binaires ou transgenres, c'est dur pour eux de dissocier leur personnage de scène à leur personnage de tous les jours. Puis, c'est facile pour eux de tomber un petit peu dans la trappe, comme que j'ai expliqué que j'étais dedans quand j'étais athlète. Donc, c'est ça que j'essaie de des fois de dire, écoute, même si t'es trans ou si t'es femme ou si t'es non-binaire, ton personnage de scène, crée-toi un autre personnage pour être capable, ou une extension de toi, mais qui est quand même dissociée, parce que c'est facile de te laisser tomber dans toutes sortes de petites trappes où que tu te sens vraiment seul quand les choses vont pas bien.
Et moi, ce qui m'impressionne toujours, enfin, j'ai aussi regardé tes photos, c'est tout ton look, tout ton maquillage, tout ça. Combien de temps ça te prend à te préparer, et aussi à préparer un numéro? Comment ça vient aussi l'inspiration?
Pour préparer au niveau du maquillage et du look, je me donne souvent 3 heures. Ça prend pas 3 heures, là. Je peux faire mon maquillage d'à peu près au-dessus d'une heure, 1 heure et demie, si je veux vraiment prendre mon temps, mais 1 heure, 1 heure et demie pour faire le maquillage. Et ensuite, ça dépend de la perruque. Si je prends une perruque lace front, c'est plus facile parce que tu fais juste la coller sur la tête. Mais sinon, si tu fais des choses plus excentriques un peu, ça prend du duct tape, il faut que tu peignes les cheveux d'une certaine manière. Puis la perruque, tu la fixes à tes propres cheveux, il faut que ça soit intégré. Fait que des fois, c'est comme une autre demi-heure juste pour la perruque. Puis ensuite, c'est une bonne demi-heure pour changer la shape de ton corps. Parce que c'est sûr que bâti comme un homme, ben pas que je suis super bâti musclé, là, mais tu sais, j'ai quand même des épaules et des bras de gars, j'ai des hanches et des fesses de gars. Mais à quelque part, il faut ça prend beaucoup de padding puis de foam pour créer la shape féminine. Donc ça prend comme une autre demi-heure. Fait qu'une heure et demie de maquillage, après ça, une demi-heure de perruque, une demi-heure pour le corps. Puis après ça, il faut que ton sac avec tes costumes puis tes trucs, c'est pas déjà tout monté, ben c'est peut-être une autre demi-heure à préparer ça. Fait que ça prend. Moi, je me donne un bon 3 heures pour préparer. Puis pour monter un numéro. Moi, c'est la musique qui vient dicter puis qui vient inspirer le tout. Je marche beaucoup avec mon chien, puis moi, la chose que j'aime le plus, c'est de juste mettre de la musique. Puis souvent, ce qui arrive, c'est j'ai toujours mes plus grandes inspirations tard le soir. Donc, mettons, je finis un show à 2h le matin, par le temps que j'arrive chez moi, je me démaquille, il est rendu 3h. C'est dur pour moi de me coucher tout de suite, fait que souvent, je mets mes écouteurs puis j'écoute de la musique. Puis je vais écouter de la musique pour une demi-heure, 1 heure avant de me coucher. Puis c'est là, on dirait que j'ai comme... Juste parce que je suis encore dans l'effervescence de la soirée, puis je suis capable de voir, ah oui, ça va bien aller, oui, ça va pas bien aller. Tu sais? Donc, c'est souvent là que j'ai plus grande inspiration. Il y a une toune bizarre ou quelque chose qui va arriver, puis je vais dire, ah, ça, je serais capable de faire ça pognerait.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.